France Inter.
Il faut que la France montre qu'elle est capable d'avoir un budget. Alors, je ne crois pas qu'on pourra faire 40 milliards d'économies. Si on arrive à 25-30, je suis déjà très content. Et il y a des leviers pour le faire. Sur la santé, certaines niches fiscales, voilà. Si la France fait ça et qu'on a la stabilité politique, la combinaison des deux, je pense qu'on est sorti d'affaire.
C'est un prix Nobel qui nous le dit. Big up à Philippe Aguillon, grand spécialiste de l'innovation, récompensé par le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel et invité de la matinale de France Inter. Alors c'était mardi dernier, avant donc la nuit dernière, durant laquelle S&P a rétrogradé la note de la France du double A au simple A. La raison ? Trop d'incertitudes politiques pour croire que le pays parviendra à rétablir ses finances publiques aussi vite que Bercy le dit. La dette a doublé en 25 ans, le résultat de choix politiques. Mais à qui la faute ? La gauche ? La droite ? L'économiste Xavier Rago avance une réponse nette à l'échelle internationale. La dette publique, elle augmente davantage sous les gouvernements de droite, qui font des baisses d'impôts, ça c'est facile et populaire, et qui n'arrivent pas ensuite à tenir leur autre promesse, baisser les dépenses publiques, parce que les populations ne le veulent pas. C'est valable en France, explique-t-il, comme aux États-Unis. La dette a plus augmenté sous Reagan, Bush, père et fils, que sous Obama ou Biden. Alors chez nous, l'ancien ministre Thierry Breton, dans son livre à paraître, « Les 10 renoncements qui ont fait la France », désigne lui deux grands creuseurs de dette, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. Je lis « 2007, début d'un quinquennat dispendieux qui va durablement nous décrédibiliser en Europe. » Allez, message du FMI cette semaine. La dette publique mondiale dépassera bientôt les 100% du PIB. Elle pourrait grimper à 123% d'ici 5 ans, ce qui serait un record depuis 1948. Ça n'est pas une consolation, mais nous ne sommes pas seuls.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Les références des études et des livres sont sur le site du Mag'Éco. Et alors, excusez-moi par avance pour ce petit chat dans la gorge, j'ai bien peur qu'il ne soit là pendant toute la durée de l'émission. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour discuter d'économie. Céline Hila est la réalisatrice de cette émission que j'ai préparée avec Joseph Ascal et Anne-Cécile Perrin. Les mixages sont signés Alex Olaré-Ouajou-Otinois et Gaspard Guy Bourget est à la console ce matin. Alors voilà la semaine où le totem de la réforme des retraites est tombé. L'invité du Mag'Éco est un leader syndical. Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, est donc avec nous à partir de 9h40. Des questions sur cette dégradation, sur le budget, sur l'assurance chômage, le pouvoir d'achat et sur le télétravail. Les entreprises sont de plus en plus frileuses pour signer des accords quand elles ne reviennent pas carrément en arrière. Vous entendrez le reportage de Sophia Berada. On parle du monde du travail et qui voilà ? Madame Vieux-Boulot, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Sandrine, ce matin, vous répondez à notre auditeur Théo, il est étudiant.
Oui, mais Théo est aussi serveur et son patron ne lui paye pas toujours ses heures supplémentaires. Que peut-il faire ?
Ah oui, c'est pas bien ça. On vous retrouve pour la réponse dans 40 petites minutes, Sandrine Foulon. Tout de suite, l'actualité de la nuit, déchiffrée par nos débatteurs ce matin. Christian Chavagneux du mensuel Alternatives économiques, il ne fait pas que lire des livres et venir une fois par mois, il vient débattre aussi. Bonjour Christian.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Et il débat avec Marc Vigneault de l'Opinion, notre spécialiste des questions budgétaires. Salut Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Alors, la discussion sur le PLF, projet de loi de finances, doit débuter la semaine prochaine. Qu'y a-t-il dans ce budget le cornu ? Les compromis, les grands écarts, est-ce que ça donne une cohérence en politique économique ? S&P semble se questionner sur la crédibilité au regard de l'instabilité. En un mot, est-ce bien raisonnable ? C'est parti, c'est le débat.
Je ne serai pas le Premier ministre d'un dérapage des comptes publics. Alors, que contient ce budget initial ?
Sébastien Lecornu, Premier ministre.
Une maîtrise des comptes publics qui réduira le déficit. Ce déficit devra être à moins de 5% du PIB, car cet impératif de souveraineté s'impose à nous tous.
Ce budget donc est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy.
Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National.
Ce n'est pas une année blanche, mais une année noire pour les Français et en particulier pour ceux qui travaillent et paient des impôts.
La pilule est particulièrement violente pour les retraités.
Sophie Binet. secrétaire générale de la CGT.
Les retraités, d'abord, ça va être les premières victimes de cette explosion des frais de santé. En plus, ils ont une désindexation de leur pension pour 2026. Et en plus, cette désindexation, elle est gravée dans le marbre, puisque ça durerait jusqu'à 2030.
Je suis heureux pour les 3,5 millions de personnes qui pourront partir à la retraite plus tôt.
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.
Et je suis aussi déterminé à arracher d'autres victoires parce que, évidemment, le projet de budget qui nous est présenté n'est pas le nôtre et qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faudra revenir sur le gel des pensions, sur le gel des prestations sociales, sur la fiscalisation des affections longue durée, des revenus étudiants, des revenus des apprentis. Simplement, il faut que le débat commence.
Le niveau de la dette en soi n'est pas une catastrophe.
Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI.
Parce qu'on voit des pays qui ont des niveaux de dette très élevés, 100% du PIB, et ça va. Ce qui est très important, c'est la pente. Et l'idée que le gouvernement ou la coalition gouvernementale a perdu le contrôle.
Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est ce qui s'est passé cette nuit? Est-ce que Standard & Poor's a considéré que on n'avait pas le contrôle des finances publiques et c'est pour ça qu'on s'est fait dégrader?
Oui, je pense que le problème, il n'est pas financier aujourd'hui. La France n'est pas au bord du gouffre. On arrive à financer notre dette. L'agence France Trésor, qui s'occupe de ça, a encore placé notre dette sans aucun problème il y a quelques jours. Il y a un vrai problème politique, de vision politique à court terme. Oui, il faut équilibrer le budget 2026, mais aussi à moyen long terme. Quelle économie on veut laisser à nos petits-enfants? Et aujourd'hui, franchement, ça fait 3 ans, merci le couple Macron-Le Maire, qu'on a un déficit public supérieur à 5 points de PIB. On a une dette sur PIB, hein, la dette mesurée à notre richesse produite chaque année, qui est au plus haut historique. On était au même niveau juste avant les deux guerres mondiales, au moment de la Grande Dépression de la fin du 19e siècle. On a les intérêts de la dette, donc la charge de la dette qu'on doit payer, qui arrive à son niveau historique. On ne peut plus aller plus loin. Il y a besoin de redresser les comptes publics. Est-ce que nos politiques sont capables de se mettre d'accord pour redresser les comptes publics? Alors, il faut mettre le bon diagnostic, pourquoi ils ont dérapé, quelles sont les bonnes solutions. C'est tout le débat politique. Et malheureusement, les agences de notation, S&P. Et une autre avant nous avait dit j'ai pas trop confiance dans la capacité de nos hommes et nos femmes politiques à trouver un compromis.
Marc Vigneault, même analyse.
Là, en l'occurrence, il y a deux problèmes. Il y a l'instabilité politique et puis le fait quand même qu'on soit revenu sur la réforme des retraites. S&P avait prévenu. C'est une des réformes les plus importantes pour redresser les comptes publics. On la suspend, il nous dégrade. Il n'y a pas de miracle. Il y a une autre actualité qui est arrivée hier soir, c'est au conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, vous savez, les retraites complémentaires du privé. Eh bien, le patronat a dit vous avez suspendu la réforme des retraites, et ben nous, on ne peut plus revaloriser les pensions, en fait, puisque c'était en partie cette réforme qui nous donnait des marges de manœuvre. Le conseil d'administration avait proposé entre 0,2% de revalorisation et 1% de revalorisation des retraites. Le patronat a dit, dans ces conditions, on ne peut plus accorder ça, et il y a des règles pour que les partenaires sociaux soient sérieux sur les retraites. Quand il n'y a pas d'accord des organisations patronales et syndicales, et ben il n'y a pas de revalorisation, et donc on a les premiers effets concrets de la suspension de la réforme.
La vengeance des syndicats
patronaux. Zéro revalorisation.
Vous n'aurez rien
du
tout.
C'est la vengeance des comptes. C'est la vengeance des comptes.
En tout cas, c'est vrai que S&P fait le lien entre le fait qu'ils nous dégradent plus tôt que prévu, ça devait être le 28 novembre, et la suspension de la réforme des retraites. On ne voit pas où ça va.
Christian, il faut souligner que c'est inhabituel qu'une agence de notation sorte du calendrier qui lui est alloué. Vrai. Et donc, ils ont montré que c'était assez grave. En sortant du calendrier, ils sont obligés réglementairement de le justifier de façon détaillée. Et donc là, ça montre qu'il y a un événement assez inhabituel et c'est évidemment la suspension de la réforme des retraites.
Alors ce matin, chez nos amis de France Info, le ministre de l'économie Roland Lescure dit que c'est un appel à la lucidité, à la responsabilité. Que faudrait-il faire ? Christian, on a, d'un point de vue économique, nous on a des lunettes éco, on a eu cette semaine la note du Conseil d'analyse économique qui était vraiment intéressante là-dessus.
Vraiment très intéressante. Alors il y a eu deux hypothèses quand même des experts du Conseil d'analyse économique. La dette française ne peut pas monter à plus de 130% du PIB. Donc ils disent, ça aurait pu être 135, 140, 125. En tout cas, eux, ils disent 130% et ils se fixent un objectif très clair, non pas de ralentir la progression de la dette, mais de diminuer la dette à l'horizon de 6 ans. Donc ils font leur petit calcul et ils nous disent, du coup, ça ferait quoi comme effort ? 27 milliards pour l'an prochain. Mais 27 milliards, c'est juste vraiment pour commencer à diminuer le déficit. Et puis, vous savez qu'il y a les dépenses qui vont augmenter tendanciellement parce que la population vieillit. Donc, plus en plus de dépenses de santé, de retraite. Et puis, les crises, on en a tout le temps. Donc, elles vont bien revenir. Donc, si vraiment on veut un petit peu se protéger des crises, de l'augmentation tendancielle des finances publiques et réduire notre dette, il faut quoi ? Il faut un effort, en gros, de 148 milliards à l'horizon de 6 ans, avec un peu plus d'efforts au début, parce que plus c'est mathématique, plus on fait d'efforts au début, moins on se le traîne freine les problèmes sur les années d'après. Donc voilà, l'effort, il est relativement acceptable, 27 milliards. De toute façon...
Acceptable, vous êtes en train de dire une marge de 27 milliards.
On n'a pas d'autres moyens, on n'a pas d'autres chemins possibles après la dégradation de notre situation des finances publiques à plus de 5 points de PIB de déficit public. Il y a quelques années, je me disais, la dette, il n'y a aucun souci, la charge de la dette, il n'y a aucun souci. Après 3 ans à plus de 5 points de PIB, on n'a pas le choix que de faire de l'austérité, et de faire de l'austérité pendant plusieurs années. La question, c'est, il y a plusieurs moyens de faire de l'austérité.
Et voilà, on va y venir.
Là, on peut discuter des chemins.
On va venir sur ce budget Le Cornu et du chemin. Juste sur la note CAE, vous voulez ajouter quelque chose, Marc, ou bien on passe directement à ce budget et ce qu'il y a dedans?
Il faut voir qu'à ce niveau de déficit qu'on a atteint, la dette publique augmente maintenant très rapidement. Et si on reste au même niveau de déficit, elle va se mettre à augmenter encore plus rapidement. Et donc le CAE, il dit, on ne peut plus rester sur cette dérivée. Il faut stopper l'augmentation de la dette. Et par ailleurs, comme disait Christian, prendre une petite marge de sécurité pour si jamais il y a une crise économique, qu'elle ne se remette pas tout de suite à augmenter. Et donc l'idée, c'est qu'il faut ramener le déficit hors intérêt de la dette à zéro. Là, il l'estime à 2,7% du PIB, donc il faut... 3,7% puisqu'on rajoute un point...
Trop de maths pour moi de bon matin.
Bon, 3,7% du PIB, il faut en gros...
Énorme.
Voilà, c'est énorme. Et en plus, comme les dépenses publiques augmentent plus vite que le PIB, il faut rajouter encore. Et donc, à la fin, ça donne effectivement 150 milliards d'euros. Et 150 milliards d'euros en quelques années, on peut le faire en 6 ans, on peut le faire en 7 ans, on peut peut-être le faire en 8 ans. Mais en tout cas, aucun parti politique ne pourra s'extraire de cette réalité. C'est-à-dire qu'il faut maintenant stopper l'augmentation très rapide de la dette, ou alors un jour, on ne sait pas quand, il y a un risque que les investisseurs internationaux se défient de la France et imposent une austérité par l'extérieur. C'est un peu ce qui est arrivé à l'Angleterre, on n'est pas du tout dans la situation de la Grèce, mais non. Il faut quand même faire attention, et on n'a plus que quelques années pour redresser la barre.
Merci Macron Le Maire.
Alors, ok. Christian Chavagneux, la bonne nouvelle quand même dans cette note du CAE, c'est qu'il y a des outils. Moi, je trouve que c'est quelque chose de positif. Les économistes disent, voilà l'effort à faire. Et ils ont listé, c'est vraiment un travail assez particulier, exceptionnel. Ils ont listé chaque outil et ce que ça peut rapporter. Si on fait des coupes comme ci, des coupes comme ça. Donc, Christian...
Il n'y a pas que des coupes. Hein. Si on fait des coupes dans les dépenses, mais si on augmente aussi certains impôts, ça pourrait rapporter combien? Et là, il y a juste un petit regard assez rigolo. Il nous rappelle que la taxe d'habitation, ça rapportait quand même à peu près 22 milliards et que l'ancien ISF, c'était 5 milliards. 22 plus 5, c'est pas les maths, ça va, Alexandra, c'est pas trop difficile.
Jusque-là,
ça va. Ça fait 27, d'accord? Et donc 27, justement, ce que nous dit le CAE qu'il faut faire. Donc, on n'aurait pas eu les baisses d'impôts de M. Macron et de M. Le Maire. L'effort, il était déjà à réaliser. Et je ne vous parle même pas de la baisse de la fiscalité du capital. Je ne vous parle même pas de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Je ne vous parle même pas des 10 milliards des impôts de production. Avec Marc, on était à la même conférence de presse hier après-midi de l'Institut des politiques publiques qui nous ont dit quel a été l'effet macroéconomique de ces baisses de 10 milliards. Zéro. Pas plus d'emploi, pas plus d'investissement, pas plus de chiffre d'affaires.
Donc, sur les deux premières années, Christian.
Sur les trois premières années, voilà, 21, 22, 23. Et Marc vous dira qu'il faut attendre encore 4-5 ans, peut-être que ça ne marche pas pendant 3 ans, mais au bout de la quatrième année, tout d'un coup, ça va faire des trucs mirifiques. Moi, j'ai demandé aux économistes, à des économistes, de faire un petit calcul. Ces économistes, ils ont le modèle de Bercy, celui du Trésor, d'accord? Et je leur ai dit, si des fois on n'avait pas eu les baisses d'impôts d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, où serait la dette publique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça aurait donné? Et vous savez où serait la dette publique aujourd'hui? Elle serait à 100% du PIB. Comme la Banque Centrale Européenne a à peu près 20% de la dette publique, ça veut dire que notre problème, il est à 80%. On serait dans une situation budgétaire, on pourrait avoir un débat politique complètement serein, au lieu d'avoir cette panique totale aujourd'hui qui nous oblige à faire de l'austérité pendant 5 ans.
Vous faites un scénario fiction qui n'existe pas. Tous les partis réclamaient des baisses d'impôts. Vous allez dire aux Français que vous remettez du jour au lendemain 22 milliards de taxes d'habitation.
Bien sûr
évidemment
que non.
Que
mais si on l'avait pas
ne
fait, on n'aurait pas de soucis.
Alors,
bien sûr.
On ne va pas faire de la fiction, je suis d'accord Marc.
Mais par ailleurs,
parlez-nous du budget Le Cornu. Plutôt, je vous ramène un peu dans le droit chemin, si vous voulez bien. Parlez-nous du budget Le Cornu. On va aller en 3 minutes, ça va être difficile, mais on va démarrer cette discussion. Qu'y a-t-il dans ce budget initial? Est-ce qu'il vous paraît bon, mauvais? Est-ce que c'est un budget d'austérité? Qui va payer? Voilà ce que j'aimerais savoir.
Alors d'abord, du point de vue de la note, si on raisonne comme la note du CAE, le budget Le Cornu, c'est à peu près 27 milliards d'efforts, en fait. Oubliez les 44 milliards de Bayrou, les 40 milliards sans les jours fériés, les deux jours fériés supprimés. Si on prend la même métrique, c'est à peu près ça. Donc, en fait, ils ont calibré leur effort par rapport à un raisonnement économique et c'est pas une cure d'austérité incroyable. Après, est-ce que les efforts sont bien répartis? Ben, tout dépend de votre vision politique. Mais faire croire que vous ne pouvez prendre qu'une petite catégorie de la population et pendant 6 ans lui faire faire 150 milliards d'efforts, ce n'est tout simplement pas réaliste. Évidemment qu'il faut taper dans les grandes masses. Si vous avez 25% de votre dépense publique, qui est une dépense de retraite, que vous ajoutez à peu près 10% de dépenses de retraite de santé, vous êtes déjà à 30%. Vous rajoutez 20% de la dépense publique, c'est les collectivités locales. Vous voyez bien que si vous dites on va juste s'en prendre à quelques fonctionnaires derrière un ordinateur dans l'État, parce que l'État c'est un peu une entité, ça ne nous concerne pas et ça touche à la limite 3 fonctionnaires qui ne servent à rien dans un bureau, l'administration administrante, vous ne ferez jamais le job. Évidemment que l'ajustement, ça va porter sur les gens. Quand vous voyez la liste du CAE, c'est une liste, les gens verraient ça, ils se disent, c'est la liste, c'est le musée des horreurs. C'est-à-dire que la plupart des choses portent sur les gens. Et donc, faire croire qu'on peut redresser les comptes sans que personne ne perde, c'est une fiction. Donc, évidemment, il y a des gens qui perdent dans ce budget.
Est-ce que sont plus les retraités?
Alors, gel des retraites et des minima sociaux. La note du Conseil d'analyse économique nous dit que ça fait 4 milliards de recettes en plus, d'accord? Il se trouve qu'il y avait une surtaxe d'impôt sur les sociétés qui doit rapporter cette année 8 milliards et donc que le gouvernement propose de la diviser par deux, donc 4 milliards. Ouais. Donc je fais les poches des retraités et des pauvres et je rends ça aux entreprises. Et comme j'ai gagné 4 milliards, je les ai perdus de l'autre côté, zéro impact sur le budget.
Attendez, donc, le raisonnement de Christian est spécieux.
Un débat, parce qu'il y a deux personnes qui parlent. Le gel des barèmes de l'impôt sur le revenu et de la CSG, 2 milliards. Là, les malades, 2,3 milliards. Donc, on va avoir un budget dans lequel, je suis d'accord avec Marc, quand on est obligé de faire de l'austérité, tout le monde doit payer. La question, c'est comment est-ce qu'on répartit? Et là, clairement, le gouvernement nous dit les pauvres, les malades, les retraités, vous allez payer. Les entreprises, les riches, vous ne paierez pas parce que sur les entreprises, je diminue. Et sur les riches, pas le moindre petit début de débat sur la taxe Zuckmann, des machins qui vont rapporter des broutilles avec une véritable usine à gaz. Donc moi, à ce stade-là, je dis, il y aura censure de la part des socialistes, on n'a pas de budget et va falloir qu'on ouvre une nouvelle période d'instabilité.
Alors, c'est assez marrant parce que pour Christian, quand on prend 8 milliards aux grandes entreprises et que l'année d'après, on leur prend un peu moins, en fait, on leur fait un cadeau. Mais non, on leur a pris juste un peu moins que la somme énorme qu'on leur avait pris l'année Marc. D'avant. Et par ailleurs, les entreprises françaises sont les plus imposées, sont parmi les plus imposées d'Europe.
Les championnes d'Europe donc, de la distribution de dividendes.
Pendant des années, on a fait le raisonnement qu'on pouvait financer toutes les dépenses publiques en augmentant les prélèvements obligatoires. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les dépenses publiques augmentent plus vite que le PIB. Donc, si vous voulez continuer à ne rien faire sur les dépenses publiques, et donc ne pas toucher à tous les gens que
pourquoi
vous avez cités,
les impôts, alors
eh bien, vous pouvez augmenter les impôts de manière indéfinie pour suivre l'augmentation tendancielle des dépenses publiques. Donc à un moment, ça ne marche plus. Il faut s'attaquer aux dépenses. Et sur les dépenses, il n'y a pas de miracle. Vous devez toucher les grandes masses. Et donc malheureusement, on ne pourra pas se... Après, vous
les
pouvez
grandes
dire...
masses. Attendez, je traduis pour les auditeurs. Vous êtes enfiévré, ce débat est enfiévré.
Les grandes masses, c'est-à-dire les retraites, la santé,
c'est
etc.
Le modèle
Après,
social.
La question, c'est est-ce qu'on fait, par exemple, dans la santé, est-ce qu'on évite les actes inutiles? Est-ce qu'on fait de la prévention? Ou est-ce qu'on fait à l'année, on n'a pas fait de réforme structurelle et on n'a pas réformé le système de santé? Et donc, on est obligé un peu de vous augmenter vos franchises. C'est ça la question.
Et le pacte Dutreil qui était très bien fait pour la transmission des PME qui est devenu un paradis fiscal pour les riches et les successions qui sont à plusieurs dizaines de millions et qui ne sont pas taxées.
Les
super héritages.
Le pacte Dutreil, Christian, ça va arriver dans la discussion parlementaire.
Tout ça, ça fait 4, 5, ça fait 10, 15 milliards. Là, on a vraiment des choses qui permettent d'équilibrer l'effort. Je suis d'accord avec Marc, tout le monde devra faire des efforts, mais il faut les équilibrer. Là, dans ce budget, il n'y a pas un effort d'équilibrer. Pour moi, c'est direct, censure.
Vous savez très bien que la discussion parlementaire va changer ce budget, qui est un budget un peu théorique de départ, et évidemment que ça va changer.
J'espère.
Ouais, ça va changer dans la discussion. Je pense que ça sera à peu près aussi enfiévré que ce matin dans le studio 521. Marc Vigneault et Christian Chavagneux, ils ont fait le débat d'On n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de
deindustrialización en
unemployment and lower job
creation.
L'écho en VO, c'est comment elle se raconte ailleurs sur la planète en Russie.
Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и...
Bah oui, la Russie conserve sa position parmi les principaux producteurs de pétrole, malgré les mécanismes de concurrence déloyale utilisés à notre encontre. Nous représentons toujours 10% de la production mondiale. Voilà, c'était Vladimir Poutine avant-hier pendant le grand forum de la semaine de l'énergie à Moscou. On va décrypter son message à Vladimir Poutine. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Russie. Alors Moscou a toujours financé une large part de son budget grâce à ses réserves de gaz et de pétrole. Maintenant, est-ce que la Russie produit vraiment toujours autant? Est-ce que le Kremlin peut toujours compter sur cette manne? Plus de 3 ans et demi après l'invasion de l'Ukraine, Sylvain, chez vous, ce sont des questions existentielles.
Les recettes gazières et pétrolières, surtout pétrolières, c'est environ un quart du budget de l'État en Russie. C'est donc très important. Ce qu'a dit Vladimir Poutine cette semaine, c'est que la Russie allait, selon lui, produire en 2025 à peu près la même quantité de pétrole qu'en 2024. 10% de la production mondiale, c'est un peu moins qu'avant la crise du Covid, mais c'est son rang globalement. Et à son sens, les seuls perdants des bouleversements du marché intervenus avec la guerre en Ukraine sont les Européens qui se sont privés, selon lui, d'une énergie bon marché en refusant d'acheter du gaz et du pétrole russe.
La Russie, elle aurait donc totalement réussi à contourner les sanctions et les embargos sur son pétrole et sur son gaz ?
Alors, elle y est parvenue, mais partiellement, grâce à sa flotte de pétroliers fantômes, grâce à des circuits parallèles pour les paiements. Mais depuis 2022, globalement, les exportations d'hydrocarbures russes sont en baisse, surtout pour le gaz, mais c'est vrai pour le pétrole aussi. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les recettes pétrolières et gazières russes sont même tombées en septembre à leur plus bas niveau depuis la crise du Covid. Et puis, la situation est inconfortable pour la Russie. Aujourd'hui, elle est devenue très dépendante de la Chine et de l'Inde, qui lui achètent majoritairement son pétrole à prix cassé. Or, l'Inde est maintenant sous pression des États-Unis et pourrait arrêter ou limiter ses importations russes dans un avenir proche.
Et Sylvain, la guerre, elle a aussi des conséquences en Russie.
Oui, les raids de drones ukrainiens sur les raffineries russes qui s'accumulent commencent à avoir des effets. Moscou a interdit les exportations de produits pétroliers raffinés pour les réserver au marché intérieur et limiter les pénuries. Mais ce sont des recettes en moins. La Russie a même été obligée d'importer du carburant ces derniers mois. Et cela inquiète le ministère des Finances en Russie, qui anticipe un budget difficile à construire pour 2026.
Sylvain Tronchet avec nous de Moscou. Il est 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité d'On n'arrête pas l'écho, c'est le patron du 3e syndicat français, Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière. Nous allons parler du budget, de la retraite, de la notation de la France. Mais commençons par parler du travail et de ce grand changement depuis le Covid, l'explosion du télétravail. Plus d'un salarié sur cinq dans le privé pratique désormais le travail à distance au moins une fois par mois. Or, depuis quelque temps, un peu comme aux États-Unis, des patrons reviennent en arrière sur ce qu'ils avaient accordé et d'autres ne sont plus si allants pour signer des accords. Est-ce que ce refroidissement, ce recadrage se passe bien ? En interne, ça peut tourner au bras de fer, comme chez Free et à la Société Générale aussi, où le conflit s'enquiste. Ce matin, notre reporter Sophia Berada nous emmène en banlieue parisienne chez Magali, une salariée en pantoufles mais au boulot.
Bonjour.
Bonjour Sophia.
Merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
Avec plaisir.
En chaussons ?
Ouais, pour rester au chaud malgré le peu de mouvement physique des journées de télétravail.
Donc je m'appelle Magali et je travaille en tant que chef de projet en conduite du changement sur les sujets IT, data, au siège de la Société Générale à la Défense. Dans la direction à laquelle j'appartiens, c'est une semaine, 2 jours de télétravail, une semaine, 3 jours de télétravail. Et en plus, on a 11 jours de télétravail volant. Et c'est une bouffée de respiration pour organiser toute la charge mentale matérielle. Le matin, on allait bosser, étendre une lessive. À midi, vider le lave-vaisselle, faire 3 courses pour préparer son dîner, amener les enfants chez le pédiatre sans poser une demi-journée. Donc voilà. Et puis le soir, quand vous vous débranchez, même si vous vous débranchez à 19h, à 19h05, vous êtes avec votre famille.
Et où est-ce que vous vous mettez pour travailler alors ?
Ah, des jours.
Un coin dans le salon, vos deux écrans, une petite oreillette pour les appels.
Tout à fait, ouais, c'est tout à fait ça pour les appels, un petit casque Bluetooth.
Ça me permet de travailler dans le calme et ça c'est hyper important. subis vraiment beaucoup le fait que les espaces de réunion étant peu nombreux, tout le monde fait ses réunions au téléphone. Moi, j'avais un collègue dans mon ancien open space. Le pauvre, il était toute la journée animé des réunions. Et moi, il me faisait une tête comme ça. Il est charmant. À la fin, vous avez des envies de meurtre, hein, en vrai. Ou de suicide, je sais pas. Mais vraiment, c'est très, très pénible.
La direction de la Société Générale a annoncé au mois de juin dernier que les salariés passeraient désormais à un jour max de télétravail par semaine. Comment vous l'avez reçu, ça?
Un peu d'incrédulité, parce qu'on se dit que c'est quand même pas possible de revenir en arrière. On nous a tellement dit, quand on a généralisé le télétravail, que c'était un levier de performance, que bon, on se dit, on va pas revenir dessus, quoi.
Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous ferait reconsidérer votre travail à la Société Générale? Est-ce que vous seriez prête, par exemple, à partir?
Oui. Non, mais bien sûr.
Il va être l'heure.
Oui, alors je vais regarder, je vais connecter, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave.
So, the Twitter eraser.
Bon, merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci à vous, Sophia.
Pour Magali, les réunions vont s'enchaîner toute l'après-midi. Je la laisse télétravailler et je me rends à la Défense, au siège de la Société Générale. J'ai rendez-vous avec Johanna Delestré, elle est déléguée syndicale CFDT.
Vous allez bien ?
Oui, ça va. Labyrinthique, la Défense, à chaque fois.
Complètement. Je vous emmène dans les locaux, vous serez mieux. Donc là, c'est les fameuses grandes tours de la Défense.
D'accord. Le local syndical est sur
c'est
le
ça.
Côté.
C'est ça.
La mise en place de cette journée de télétravail, si la direction ne change toujours pas de position, ce sera septembre 2026. Donc jusqu'à septembre 2026, les salariés se disent « ça peut peut-être encore changer, on va attendre ». Mais on craint en tout cas qu'il y ait une vague de démission à ce moment-là et quand vraiment dans les faits, ce sera mis en place. Déjà, on a une problématique sur la région parisienne, c'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir RSE et temps de transport. Mais après, on a des vraies problématiques en province. C'est-à-dire qu'à la Société Générale, on a fait plusieurs plans de restructuration avec des suppressions de postes, ce qui fait qu'il y a certaines villes moyennes qui aujourd'hui n'ont plus d'activité ou beaucoup moins d'activité bancaire qu'on avait avant, et notamment les centres administratifs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur poste supprimé à ce moment-là et qui ont accepté de s'éloigner parce qu'il y avait les conditions de télétravail. C'est une décision qui vient du directeur général, il n'y a eu aucune négociation préalable à cette prise de décision, ce qui fait qu'on a réagi vivement, organisé plusieurs manifestations et mobilisations depuis fin juin. C'est environ 30 000 salariés qui risquent de perdre en nombre de jours de télétravail.
Alors, quelles sont les raisons de son entreprise? La banque avance deux explications: améliorer la performance et harmoniser les règles entre les différents services et les différents pays où elle est implantée. Elle n'est pas la seule à reculer sur le télétravail. On peut citer l'annonceur JC Déco, l'assureur AXA, l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft ou encore la compagnie Air France. Moins de jours dans les accords et aussi de moins en moins d'accords signés chaque année, c'est ce que nous apprend le cabinet de conseil Alpha. Pourquoi cette marche arrière? Je pose la question à Audrey Richard, la présidente de l'Association nationale des DRH me reçoit dans son bureau parisien.
Alors, ce qu'on a vu au sein de l'association, c'est que certaines entreprises avaient été un peu loin en nombre de jours de télétravail accordés. 3 jours, 4 jours de télétravail. Quand on travaille 4 jours à la maison, c'est évidemment moins facile de collaborer, de co-créer ensemble avec une équipe qui serait sur un autre site. Sur un rythme qui est autour de 2 jours, l'organisation du travail, le lien avec le management, le lien avec l'équipe, il existe, il fonctionne. On a prouvé que cela fonctionne.
Les grandes entreprises parisiennes ne sont pas les seules concernées. Direction Rennes, où Élodie Cohen-Morvan est avocate en droit du travail. Des dirigeants de PME viennent souvent prendre conseil sur ce sujet. Comme récemment, une entreprise de Quimper dans le secteur des services. 150 salariés et l'un d'entre eux, qui était à 100% en télétravail, a refusé de revenir sur site. Des dossiers comme celui-ci, Élodie Cohen-Morvan s'attend à en avoir de plus en plus.
Les employeurs n'aiment pas le télétravail parce qu'il y a plein de contraintes attachées au télétravail. Il faut indemniser le salarié au titre des frais professionnels. On a eu un arrêt tout récent du 8 octobre qui vient dire que même les salariés en télétravail vont avoir le droit au ticket restaurant. Et puis, l'indemnité d'occupation, parce que c'est une atteinte à leur vie privée. Et puis les frais professionnels, parce que le salarié, il doit payer plus pour son abonnement, électricité. Et tous ces frais-là, l'employeur doit les prendre en charge. Dans les petites structures, ils n'aiment pas ça. Ils ont l'impression qu'on leur rajoute. Alors le télétravail, C'est la bête noire. Un jour, j'avais participé à une conférence que j'avais donnée au MEDEF. Et quand j'ai indiqué toutes les contraintes du télétravail, mais je me suis fait quasiment insulter. Et je leur disais, mais non, mais ça n'est que la loi, tout simplement. Voilà. Donc, alors, quand c'est dans le contrat de travail, il faut l'accord du salarié. Et là, l'employeur ne peut pas revenir en arrière. Si ça a été mis en place correctement, il y a une charte, il y a un accord collectif, et qu'au surplus, il y a une clause de réversibilité, elle s'impose au salarié. Et si elle s'impose et qu'il refuse, cela peut être un licenciement disciplinaire. Bon, après, est-ce qu'il n'y aura pas une jurisprudence où le salarié invoquera le respect de sa vie privée et familiale, l'article 8 de la CEDH, en disant « mais oui, mais moi, ça bouleverse ma vie privée et familiale ». Peut-être.
Certains salariés ne comprennent pas pourquoi il faut revenir sur ce qui leur semble être un acquis. Laurent Tasquin est docteur en sciences économiques et de gestion. Il s'intéresse à l'adoption du travail à distance depuis 25 ans. La remise en question des accords de télétravail signe, selon lui, un basculement.
On peut interpréter le mouvement de ces entreprises comme étant l'envie, quelque part, de réaffirmer le collectif. Est-ce que c'est en imposant, finalement, des jours de présence au bureau qu'on y arrive ? Certainement pas. C'est pas suffisant et c'est peut-être même pas la bonne solution. On se rend bien compte, effectivement, que d'imposer de venir au bureau, alors que quand on est au bureau, on est peut-être seul face à un écran avec un casque sur les oreilles à être en visioconférence ou à avoir des réunions à distance, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on soit ensemble ? Quelles sont les activités qui nécessitent une présence collective ? Par exemple, pour intégrer de nouveaux collaborateurs, par exemple, pour faire une évaluation. Dans notre organisation, qu'est-ce qui justifie qu'on soit présent les uns avec les autres ?
Certains salariés ne comprennent pas pourquoi on leur a dit que le télétravail était un levier de performance et qu'en plus c'était écologique.
Aujourd'hui, établir les coûts-bénéfices du télétravail, c'est pas évident. Parce qu'en fait, il y a plusieurs dimensions qui sont affectées. Il y a une dimension économique, la performance, la productivité. Ensuite, on a une dimension sociale, par exemple de santé, de qualité de vie au travail. Et puis, on a une dimension de plus en plus environnementale. Parce que si on télétravaille, on suppose qu'on se déplace moins, par exemple, en voiture. C'est pas si facile que ça, parce qu'on a des recherches qui nous montrent que, en matière de consommation énergétique, on utilise de l'électricité à domicile. Il faut chauffer son domicile. Les bureaux de l'entreprise ne sont pas pour autant moins chauffés ou moins éclairés. Ce qui peut être bon pour le bien-être individuel n'est peut-être pas bon pour le bien-être collectif, ni pour la planète.
Télétravail, quand les accords sont remis en question, c'était le reportage de Sofia Berada.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
On continue la réflexion sur le télétravail et l'actualité avec le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour et bienvenue Frédéric Souillot.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Aujourd'hui, les restrictions sur le télétravail, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Est-ce que c'est qu'on était allé trop loin dans la mise à distance des salariés, ou bien c'est un état d'esprit général dans les entreprises qui est en train de changer ?
Alors, il y a un état d'esprit général dans les directions de l'entreprise, notamment toutes celles qui ont des fonds hors France.
Des fonds d'investissement ou les fonds d'entreprise ?
Oui, enfin des actionnaires qui viennent d'ailleurs, qui ne comprennent pas le télétravail comme ça, comment on paye quelqu'un à rester à la maison. Mais il n'empêche que le télétravail, c'est un fait acquis. Il y a un accord national interpro, ça a été repris dans les branches, c'est repris dans les entreprises. Je souhaite bon courage à tous ceux qui veulent revenir sur ces accords. Et à chaque fois, qu'il y ait une rediscussion, une renégociation, un bilan, une évaluation, c'est toujours ce que l'on dit. Mais si on dit... bêtement, excusez-moi le terme, on arrête le télétravail, ben ça ne marchera pas. Un des premiers accords de télétravail signés en France, c'était 2004, et Jean-Denis Combrexelle m'a trimballé partout pour venir vendre l'accord de télétravail que j'avais signé à l'époque, qui était le directeur général du travail.
Frédéric Souillot, dans le baromètre Opinion Nouée pour Challenge, cette semaine, on voit que la confiance des patrons dans l'économie française s'effondre au plus bas depuis décembre 2024. Les intentions d'embauche nette, elles sont à zéro. Qu'est-ce qui vous remonte du terrain, vous, jusqu'au siège de Force Ouvrière ? Est-ce que vous êtes inquiet ?
On était déjà inquiet par rapport au nombre de plans sociaux qui avaient été annoncés. Parce que quand il y a l'annonce du plan social, bah les licenciements n'arrivent pas tout de suite. Il y a les discussions, les négociations et tout cela. Ce qui nous remonte, c'est que plein d'entreprises arrêtent les investissements. Parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, parce que pour tout un tas de raisons qui parfois n'ont rien à voir avec le contexte actuel. Dans tous les cas, elles n'auraient pas décidé d'investir après-demain matin.
Vous voulez dire, vous êtes en train de nous dire, c'est pas toujours l'instabilité politique. Là, on voit que, on dit l'instabilité politique pèse sur l'économie française. Est-ce qu'elle pèse sur les salariés ?
Bien évidemment, elle pèse sur les salariés. Je rappelle quand même aux deux économistes que j'ai écoutés juste avant, 56% du produit intérieur brut, c'est la consommation des ménages. Donc quand les ménages sont inquiets et qu'ils n'arrivent pas à se projeter, ben, ils épargnent, ils ne consomment plus. Et donc, ben, sur notre PIB, ben, ça a un effet. Et il y a certaines entreprises qui avaient arrêté les investissements parce que la branche ou l'activité dans laquelle ils étaient était en train de péricliter. Et aujourd'hui, ce que l'on dit et ce que je redis, arrêtons d'avoir réindustrialisation comme un slogan. Il faut qu'on soit pragmatique, qu'on fasse les choses, notamment pour l'automobile. Les inquiétudes dans ce secteur, et il y a tout un tas de sites qui sont ce qu'on appelle APLD, hein, chômage partiel rebond, puisque ça avait été mis en place à l'époque du Covid, eh bien là, ça crée de grosses inquiétudes, notamment chez Peugeot. Renault, c'est d'autres mesures, mais il y a vraiment de l'inquiétude. Et là, on parle de presque 700 000 emplois.
700 000 emplois en France ?
Oui.
C'est-à-dire, ça, c'est toute la filière automobile ?
C'est toute la filière automobile, et puis après, ben, vous avez les équipementiers, et sous-traitants et co-traitants. Et à chaque fois qu'on perd un emploi industriel, on perd 4 emplois induits. Les 3 premiers directs, c'est commerce, service, sous-traitance, co-traitance, et le 4e, souvent, c'est un emploi de la fonction publique, parce que quand on a fermé sur un territoire une usine ou une industrie, ben, petit à petit, on y perd les impôts, la poste, et puis la gendarmerie ferme. Et j'ai vu un reportage cette semaine à Saint-Claude dans le Jura. Je l'ai suivi, la fonderie de Saint-Claude à l'époque, pour la Fédération de la Métallurgie FO. Eh bien, quand elle a fermé, on était sûr que l'hôpital, 3 ans ou 4 ans plus tard, fermerait sa maternité, ses urgences et tout cela. Et c'est ce qui est arrivé.
Alors, le budget à présent, pour le budget, ça va beaucoup se passer au Parlement, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il en pense, le secrétaire général de Force ouvrière ? Parce que c'est nouveau comme méthode. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ?
Ben, logiquement et normalement, c'est la Constitution. C'est toujours là que ça aurait dû se passer depuis des décennies. Mais il y avait cette histoire de 49-3 et qui est aussi constitutionnelle. Ben maintenant, oui, ça va se passer au Parlement. Mais j'espère qu'au Parlement, on va pouvoir écrire austérité à côté de ce budget. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous fait un peu de minauderie en nous disant « Oui, mais c'est un budget, il est raide. Il va falloir que tout le monde mette la main à la poche. » Enfin, je m'aperçois qu'on demande au plus grand nombre, c'est-à-dire que la facture, on la présente aux travailleurs. La facture du quoi qu'il en coûte et tout ce qui en a suivi, ben c'est aux travailleurs qu'on la présente, c'est un budget d'austérité.
Alors, il y a quand même annoncé la suspension de la réforme des retraites. La CFDT, elle dit, c'est une grande victoire. Chez Force ouvrière, on ne considère pas que là, on a fait tomber un totem ?
Alors, voir une partie de ceux qui l'ont porté et qui l'ont soutenu avaler leur chapeau, c'est plutôt sympa. Maintenant, pour le reste, tout ça, c'est suspendu à un fil. Parce que suspension, ça ne veut pas dire abrogation. Et je suis content que dans la suspension, on ne suspende pas que l'âge de départ. L'âge de départ serait concerné un peu moins d'un million de travailleurs nés entre 64 et 65. Enfin, 64 et 65. L'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation, ben là, ça va concerner 3,5 millions de travailleurs.
Mais pourquoi vous dites que c'est un fil ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance ?
Ben, écoutez, j'ai vu le Parlement ces deux derniers jours, ce qui s'y est passé, censure, pas censure. Avant ça, l'instabilité. Le Parlement, en fait, la conséquence de cette réforme des retraites passée au forceps, au 49-3 par Elisabeth Borne, où elle échappe à la motion de censure à 9 voix près, un peu moins que Sébastien Lecornu, eh bien, les résultats des élections, les citoyens n'en voulaient pas. À plus de 80% des citoyens et 92% des travailleurs, on ne voulait pas de cette réforme des retraites. Eh bien, quand ils ont été dans l'urne, ils ont voté pour des partis qui avaient mis l'abrogation de la réforme des retraites dans leur programme.
Alors, cette abrogation, est-ce que, je vais vous dire franchement, est-ce que vous êtes bien raisonnable? Là, on a l'agence S&P qui dégrade, plutôt que prévu, c'est vraiment la gifle, et S&P fait le lien avec, bah, vous suspendez la réforme des retraites, on voit vraiment pas comment, vous, la France, vous allez arriver à redresser les finances publiques. Vous êtes en train de nous dire, Frédéric Souillot, que vous vous demandez encore l'abrogation, qui coûte beaucoup plus cher qu'une suspension. Est-ce que c'est ça, la lucidité à laquelle vous appelle le ministre de l'économie ce matin?
Alors, la lucidité, elle est simple. En France, c'est pas qu'on ne travaille pas assez, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Comment est-ce qu'on se débrouille pour l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors? Parce qu'on nous parle de démographie. Mais sur la réforme des retraites et sur le budget de la retraite, on oublie de nous parler de 2023. 7,4 milliards d'excédents sur la retraite par répartition, pour une raison très simple. 2023, il y a de l'inflation. Et quand il y a de l'inflation, il y a de la négociation sur les salaires. Donc on a négocié les salaires en février et en mars, et on a fait des clauses de revoyure, on n'avait pas entendu ce mot-là depuis 20 ans, en septembre et en octobre, et on a augmenté les salaires, et quand on augmente les salaires, on augmente les cotisations, proportionnellement, et les cotisations patronales. Eh bien, on a été excédentaire de 7,4 milliards. Si on est plus nombreux à travailler, notre taux d'emploi...
Mais ça ne se décrète pas, ça. C'est ça, vous dites, la lucidité, c'est d'abroger la réforme des retraites, mais d'être plus nombreux à travailler.
Oui,
mais ça, c'est pas facile.
Non, mais prendre les choses par le bon bout, c'est ce que j'expliquais à Elisabeth Borne en 2022 et au président de la République. Prendre les choses par le bon bout, c'est d'abord travailler sur l'emploi. L'emploi des jeunes, l'emploi tout au long de la vie, formation, reconversion, transition et l'emploi des seniors.
Ça prend du temps. Ben, ça prend du temps.
Oui, alors, écoutez... Ça prend du temps parce que dans le contexte qu'est notre République aujourd'hui, depuis le quinquennat, on n'a plus de temps long. On nous parle juste de temps court et on est en élection permanente à chaque quinquennat. Et aujourd'hui, regardez même la logique de dire « je vais construire un gouvernement qu'avec des gens qui n'auraient pas de velléité ou de volonté pour être candidat à l'élection présidentielle ».
Frédéric Souillot, vous êtes donc co-gestionnaire avec tous les partenaires sociaux du régime de retraite complémentaire. Hier, vous avez décidé qu'elles, ensemble, elles ne seront pas revalorisées au 1er novembre.
On n'a pas décidé.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 14 millions de Français ne verront pas leur retraite complémentaire revalorisée?
Eh bien, parce que dans la gestion paritaire, il y a organisation syndicale patronale, organisation syndicale de salariés. Et le patronat avait décidé... que en fonction de l'année blanche qui allait arriver sur les retraites, sur la facture du quoi qu'il en coûte qu'on présente au plus grand nombre, c'est-à-dire aux travailleurs, eh bien, il ne fallait pas augmenter plus de 0,2%. 0,2%, je rappelle, c'est 1 euro par mois.
Donc vous êtes...
Toutes les organisations syndicales, elles, voulaient 1%, c'est-à-dire 5,40 euros d'augmentation de la pension de retraite complémentaire chaque mois.
Mais ça, c'est une conséquence de la suspension de la réforme des retraites, c'est ça qui vous a dit le patronat?
Non. C'est-à-dire que le patronat dit « je suis pas content, on me suspend la réforme des retraites, on me dit qu'on va me remettre un petit peu d'impôts ». En même temps, depuis 2017, le patronat, ben, il a fait qu'engranger, hein. C'est mieux que la Française des Jeux, hein. Les aides publiques versées aux entreprises sans aucune conditionnalité, je prends juste le rapport du Sénat, 211 milliards d'euros. Allègements généraux de cotisations, 89 milliards que l'État doit compenser.
Question, Frédéric Souillot. Si jamais le gouvernement a dans l'idée de donner aux partenaires sociaux la gestion du régime général, ça vous intéresse, la
reste? Bien évidemment. Ouais. Avant 1996, les ordonnances de 1996, la sécurité sociale était gérée paritairement. Eh bien, moi, je dis oui. Chiche, on y va. Et le patronat...
Et vous prendriez des décisions difficiles quand même, hein, pour résoudre les déficits.
Regardez,
on est d'accord, c'est ce que vous faites pour les complémentaires.
De la création de la sécurité sociale à maintenant, jusqu'en 1996, des décisions difficiles, on savait les prendre. C'est des décisions responsables.
Dès 1900... D'un mot, Frédéric Souillot, la conférence sociale... Vous irez à laquelle vous appelle le gouvernement.
Tout ça, c'est suspendu au même fil que la suspension de la réforme des retraites. Tout ce qu'on nous a dit aujourd'hui, tout est suspendu. On dirait une toile d'araignée. J'espère que le fil de base tient bien.
Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, merci d'avoir accepté notre invitation.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Théo a bien fait de vous écrire. Il a une question. Il est étudiant et serveur dans un bar à Valenciennes. Son patron ne lui paie pas toujours ses heures supplémentaires. Comment exiger qu'il le fasse, vous demande-t-il.
C'est un phénomène malheureusement assez répandu. Une enquête de l'INSEE portant sur 150 000 personnes a montré qu'en 2023, 25% des hommes et 30% des femmes effectuaient des heures sup pour la gloire. Et ça ne concerne pas seulement des secteurs comme l'hôtellerie-restauration, la construction ou le transport, qui fournissent les plus gros bataillons d'heures sup. La part des cadres non rétribués pour ces extras atteint 58%. Dans votre cas, Théo, envoyez d'abord un mail ou un texto à votre employeur avec un récap des horaires. Précisez tout ce que vous pouvez préciser, les heures d'ouverture, de fermeture, les services que vous avez réalisés seul ou avec tel collègue. Sachez que si les choses devaient mal tourner et se finir au prud'homme, le juge va fonder sa conviction sur les preuves que chaque partie va présenter. Un salarié doit fournir des éléments suffisamment précis et l'employeur doit apporter ses propres arguments.
Mais s'il n'y a pas de pointeuse ou alors de système de contrôle, Sandrine, comment est-ce qu'il peut faire, Théo ?
Parfois, un simple tableau manuscrit suffit, même s'il ne mentionne pas les pauses déjeuner, par exemple. Pareil pour des mails envoyés à des heures tardives. Dans ces deux cas, la Cour de cassation a rappelé qu'un juge ne pouvait pas faire peser la charge de la preuve sur les seuls salariés. Les documents avaient beau ne pas être parfaits, ils étaient quand même suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. Heureusement, tout le monde ne fait pas comme votre patron Théo. En 2023, près de 9 millions de travailleurs ont réalisé des heures sup rémunérées. En 10 ans, le nombre moyen d'heures supplémentaires par salarié à temps complet a augmenté de 20%. C'est beaucoup. Une personne sur 10 en fait même 228 par an, plus que le contingent légal, car certains accords collectifs prévoient des dérogations. Cette envolée générale n'est pas très mystérieuse. Les salariés ne payent plus d'impôts sur le revenu ni de cotisations salariales sur ces heures et les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'une déduction forfaitaire patronale, ce qui peut induire un effet d'aubaine. Même si ces heures sont majorées, elles restent financièrement plus intéressantes pour un employeur grâce aux allégements. Elles peuvent parfois remplacer opportunément une prime et surtout une bonne vieille augmentation. Enfin, elles incitent à faire travailler les salariés déjà en poste plutôt qu'à créer des emplois. Mais encore une fois, Théo, au moins là, elles sont payées. En moyenne, les salariés gagnent 2000 euros par an grâce à ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.